Voilà, eh bien, bonsoir à vous pour ce nouveau mardi d'éthique publique du Centre Sèvres, en partenariat avec la revue Études. On peut dire un mardi exceptionnel en raison des circonstances, circonstances qui nous ont d'ailleurs conduit à reporter le sujet qui était déjà prévu pour cette soirée. Et ce caractère exceptionnel est bien confirmé par votre présence nombreuse ce soir. Vous êtes sans doute différemment installés, mais je crois que nous sommes dans les 500 ce soir au Centre Sèvres, en trois salles, et encore cela ne suffit pas. Confirmation, s'il en fallait, de l'intérêt du sujet. Une attente forte, une attente d'information et une attente de réflexion. Et je salue aussi tous ceux qui nous écoutent en direct dans une dizaine de villes en France, dont pour la première fois Grenoble et Rouen. Lors de la séance du mardi 6 janvier, le mardi d'éthique publique du mois précédent, le 6 janvier, j'avais formulé le vœu suivant, le vœu que nos sociétés progressent dans le respect de chacun, dans l'accueil de l'autre, dans l'attention portée aux conditions d'un meilleur vivre ensemble, tant à l'échelle de notre pays, qu'en ce qui concerne les solidarités internationales, et que nous-mêmes soyons capables de prêter attention à ce qui peut nous faire progresser dans une conscience citoyenne éclairée, renouvelée. Et quelques heures après, vous le savez, le lendemain matin, survenait le premier acte des événements que nous savons. Et par là, je crois que le vœu exprimé la veille au soir prenait bien sûr une résonance tout à fait particulière. Il venait de rencontrer une urgence. Alors aujourd'hui, nous avons choisi non pas de revenir directement ou trop directement sur ces événements et pas davantage de présenter une réflexion sur la religion musulmane dans son contenu, dans ses dimensions théologiques ou politiques ou encore dans les questions posées par le rapport à sa propre tradition. Mais nous avons choisi de nous fixer sur l'islam en France pour mieux le connaître, pour comprendre ce qu'il représente, par quoi il est traversé, quelle est sa place, en fin de compte, dans la société française. Et c'est bien l'objectif de cette soirée, avec une approche de type plus sociologique, historique aussi. Comment la communauté musulmane s'est-elle constituée? Comment la décrire aujourd'hui? Que peut-on en dire? Et puis, bien sûr, comment comprendre les phénomènes qui affectent une partie de sa jeunesse? Le but de notre rencontre est de mieux comprendre ce qu'il en est d'une situation, d'apporter des repères pour la réflexion et pour l'action dans un climat qui est toujours un climat d'écoute et de débat. Alors, pour nous aider ce soir, eh bien, je suis très heureux d'accueillir M. Farhad Khosrokovar. Bienvenue. Vous êtes sociologue, philosophe aussi. Vous avez travaillé avec Alain Touraine, notamment. Vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'islam. Vos nombreuses publications sont consacrées pour une part à l'Iran, ainsi l'utopie sacrifiée, sociologie de la révolution iranienne, l'islamisme et la mort, à savoir la question, vous savez, des enfants envoyés au combat pour y être sacrifiés lors du conflit avec l'Irak, ou encore Iran, comment sortir d'une révolution religieuse. Mais vous avez étudié aussi de très nombreux aspects de l'islam en France, je cite, l'islam des jeunes, 1997, Les nouveaux martyrs d'Allah, 2002, l'islam dans les prisons, 2004, quand Al-Qaïda parle, témoignage derrière les barreaux, 2006, et puis tout récemment, en décembre, le livre Radicalisation qui est paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. C'est ce livre-ci, livre que vous pouvez trouver avec les autres livres d'ailleurs en vente à la sortie de cette salle ou dans le hall du Centre Sèvres. Un livre où vous proposez une interprétation des phénomènes de radicalisation djihadistes en Europe et dans le monde arabe notamment, et avec l'analyse d'un nouveau type de radicalisation, celui qui résulte de l'afflux des jeunes Européens vers la Syrie. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. Avec nous également ce soir, c'est Jean-Luc Poutier, historien, en particulier historien des religions, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, et directeur du Collège universitaire de Sciences Po. Vous avez été aussi parmi de nombreuses fonctions, je ne les énumère pas toutes, mais conseiller culturel auprès de l'ambassade de France au Vatican. Vous avez enseigné et enseigné toujours, je crois, au Centre de formation des journalistes. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Études. Vous avez donné un cours cette année au Centre Sèvres sur les enjeux de la laïcité à la française. Parmi quelques-unes de vos publications, je citerai simplement « Les religions d'aujourd'hui »,« Une histoire pour quel avenir ?» ou encore « Au nom de la loi, la religion, le pouvoir et la loi ». Mais je voudrais le signaler, vous êtes aussi le fondateur, l'animateur du CEFRELCO, c'est-à-dire le Centre d'études du fait religieux contemporain, dont la mission est double, d'une part une mission plus théorique, étudier et débattre, c'est-à-dire être un lieu de réflexion, servir de relais à la recherche universitaire, et puis aussi, autre mission, une mission de peut-être plus pratique de formation et d'accueil, formation et de conseil, pardon, qui consiste à apporter aux entreprises, notamment, une expertise dans la gestion du fait religieux. Alors, pour en savoir plus, eh bien, je ne peux que vous renvoyer au site internet du CEFRELCO et à sa newsletter. Notre soirée va se dérouler de la manière habituelle. Deux interventions d'abord, puis les questions que vous poserez dans la salle. Et je donne maintenant la parole tout de suite à M. Poutier pour situer la question de l'islam en France.
Merci beaucoup, Père, pour cette présentation. Merci pour votre accueil et pour votre présence. Votre présentation l'a bien souligné, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam. Et sans vouloir prendre de vaines précautions oratoires, je pense qu'il n'est tout de même n'est peut-être pas inutile de bien situer de quel lieu je parle. J'ai été un chercheur, je le fais toujours en partie, mais mes travaux de recherche portent sur le catholicisme, donc pas sur l'islam. Mais si j'ai quelque légitimité à parler de l'islam, c'est qu'il y a très longtemps, j'ai commencé mes études par des études aux langues orientales en arabe, et malheureusement très peu en persan, et que mon intérêt et ma curiosité pour le monde arabe et pour l'islam ne s'est jamais démenti. Donc c'est le point de vue d'un observateur que je vais vous donner. Et cet observateur va essayer de tracer le cadre dans lequel la question de l'islam se pose en France aujourd'hui. Et bien sûr, M. Khosrokavar pourra, lui, vous exposer les résultats de travaux de recherche très approfondis, ce qui n'est pas, encore une fois, le point de vue dont je parle. En quelques mots d'introduction, je voudrais essayer de situer ce qu'est aujourd'hui le paysage religieux français et nous verrons ensuite quelle place l'islam peut y occuper. Ce paysage religieux, il est aujourd'hui au carrefour de deux tendances fortes, l'une ancienne, l'autre plus récente, et leur croisement a bouleversé sensiblement ce qu'est aujourd'hui la place de la croyance religieuse dans notre société. La tendance de fond, la plus lourde, c'est celle d'un phénomène de sécularisation de notre société. C'est un phénomène qui est discuté, mais c'est un phénomène qui a été abondamment décrit et analysé. Et donc, aujourd'hui, la société française poursuit sa sortie du religieux. Et cela se traduit, par exemple, dans les sondages, par le fait que le nombre de Français croyant en Dieu, tel qu'il est mesuré, continue à décroître très régulièrement et que nous sommes aujourd'hui sur ce plan un des pays les plus sécularisés d'Europe. Mais en même temps, s'est produit depuis une dizaine d'années un mouvement de pluralisation du paysage religieux français, extrêmement important également. Bien sûr, c'est l'islam qui a été le plus souvent vu et analysé dans ce phénomène de pluralisation, mais bien d'autres confessions sont venues dans la société française, s'implanter dans la société française. La France est aujourd'hui le premier pays bouddhiste en Europe. Elle a accueilli, après 1989, de nombreux orthodoxes qui n'étaient plus seulement les descendants des juifs, des russes blancs qui avaient fui la révolution bolchevique dans les années 1917-1920. Je pourrais multiplier les exemples, mais le paysage religieux de la France d'aujourd'hui, et nous le voyons à travers le site faireligieux.com que vous avez mentionné, lorsque nous avons des réactions, elles sont souvent des réactions de minorités qui ne comprennent pas qu'elles ne soient pas associées à l'information et que l'on ne parle pas d'elles, qui sont satisfaites de trouver place dans la présentation que nous pouvons en faire. La pluralisation de ce paysage religieux ne cesse de s'accentuer et elle a changé la donne sur beaucoup de plans, même si, encore une fois, c'est sans doute l'islam qui a été la religion la plus visible dans ce mouvement de diversification des croyances dans notre pays. Un mot pour souligner d'ailleurs que la sécularisation de la société française, et j'emprunte cette analyse à Jean Bobéro, est une sécularisation de type particulier, parce que c'est une sécularisation qui, dans des effets qu'elle a produits sur le plan de la laïcité, a pu être très agressive à l'égard de la religion surplombante dans l'histoire de la France moderne et contemporaine, qui était le catholicisme. Et en même temps, cette sécularisation n'a pas non plus complètement évacué le sacré. Depuis Raymond Aron et d'autres, les sociologues ont été amenés à parler dans les sociétés sécularisées de religion politique. Aron pensait en particulier au totalitarisme lorsqu'il évoquait ces religions politiques. Mais l'idée républicaine française est, à sa manière, une forme de religion politique. C'est-à-dire que cette idée de séculariser qui récupérait une part du sacré préalable s'est largement implantée dans la société française à travers diverses institutions et la substitution de l'enseignement laïque à l'enseignement jadis religieux ou clérical, a véhiculé une part de ce sacré. Je crois que c'est important, cette idée de sécularisation qui n'évacue pas complètement toute idée du sacré, c'est important à avoir en tête parce que lorsque nous évoquerons peut-être tout à l'heure la question du foulard à l'école, par exemple, eh bien, une part d'irrationalité s'est fait jour au moment où ces questions se sont posées, qui a surpris notre environnement international, parce que les pays étrangers n'ont pas compris la véhémence des réactions françaises au nom d'une certaine laïcité vis-à-vis de cette question, par exemple, du foulard islamique. Et donc, je pense que Jean Bobéro a tout à fait raison de souligner que notre sécularité n'est pas tout à fait la même que celle des pays environnants. Alors, pour en venir au cadre que j'ai promis de tracer sur ce qu'est l'islam aujourd'hui dans la société française, je procéderai en trois points. Je vais essayer d'abord, en quelques mots, de dire de quelle situation il est l'héritage. Ensuite, je parlerai des réactions qu'il suscite. Et enfin, nous poserons la question de la laïcité. De quelle situation cet islam présent aujourd'hui sur le territoire métropolitain français est-il l'héritier? Eh bien, il est l'héritier d'une longue situation coloniale. Et il était frappant l'autre jour, lorsque le Premier ministre a parlé d'apartheid, de voir les réactions que son propos a suscité. Effectivement, il est possible d'être d'accord ou pas d'accord avec l'idée de forme d'apartheid social dans la société d'aujourd'hui. Mais vis-à-vis de l'islam, la France a une longue tradition, sinon d'apartheid, au moins de ségrégation. Le statut qui a été fait pendant un siècle et demi, pas tout à fait, aux musulmans vivant en Algérie était ni plus ni moins l'indigénat qu'un statut de ségrégation, puisque ces musulmans vivant sur le territoire algérien avaient la nationalité française, mais n'avaient pas les droits civiques et civils qui devaient accompagner cette nationalité. Et je crois que c'est important à avoir en tête, parce que aujourd'hui, La communauté musulmane la plus nombreuse sur le territoire français est d'origine algérienne, à peu près 1 700 000 personnes. Et cette communauté ne peut pas, comme nous d'ailleurs, ignorer que nous sommes les héritiers d'une situation, d'un type de relation entre la France et l'islam dans un pays donné pendant une période relativement longue, qui était une situation de négation des droits de ceux qui étaient les croyants ou les pratiquants de cette religion. Et donc, ayons bien cela en tête lorsque nous envisageons aujourd'hui de parler d'un islam de France. La France n'a pas rencontré l'islam seulement depuis les années 1970. C'est un héritage beaucoup plus ancien. Alors comment, vous l'avez évoqué, une communauté musulmane s'est-elle constituée en France? Je vais aller assez vite, mais rappeler quand même certaines étapes. Les chiffres, les nombres que j'ai pu trouver sur la présence de musulmans dans la société française au moment du vote des lois de laïcité de 1905 varient entre 5 000 et 10 000 personnes. 10 000 semble excessif, sans doute plutôt du côté de 5 000. Pour autant, c'est anecdotique, mais ça n'est pas inintéressant. À la fin des années 1890, le Parlement français comptait un député musulman. C'était un médecin converti à l'islam, député du Doubs, pontarlier, et qui était une sorte de médecin des pauvres, très populaire là où il exerçait, là où il avait sa pratique, et ça avait fait qu'il avait été élu musulman la Chambre des députés, puisque ça s'appelait ainsi, à la Chambre des députés française. Et au moment de la discussion des lois de laïcité, d'ailleurs, à plusieurs reprises, l'islam a été valorisé par les participants au débat sur les lois de séparation par rapport au cléricalisme catholique. L'islam avait des vertus. D'abord, c'était une religion beaucoup plus rationnelle que le catholicisme, avec tout son fatras de Dieu trinitaire, de sainteté diverses et variées. Enfin bref, pour les anticléricaux, le catholicisme baignait dans l'irrationnel, la Vierge Marie, alors que l'islam était dépouillé de tout cela. Et donc, on lui trouvait quelques vertus en la matière. Ensuite, il était vu comme tolérant, parce que juifs et chrétiens avaient eu un statut de dhimmi dans les sociétés musulmanes, ce qui était loin d'avoir toujours été le cas en réciprocité dans les sociétés chrétiennes. Et puis, cet islam, il était perçu comme une possibilité d'émancipation. Il n'était pas vu comme une religion oppressive, à la différence de la religion catholique, et en particulier du fait qu'il n'avait pas de clergé. Bon, l'anticléricalisme, c'était d'abord un combat contre les cléricaux, et les cléricaux, c'était d'abord les prêtres. De la Troisième République naissante et les lois de séparation, on visait avant tout le clergé. L'islam n'avait pas de clergé, en tout cas était perçu comme tel, et c'était un point perçu comme très positif. Alors, donc là, on est à peu près à 5000 personnes musulmanes présentes sur le territoire français à cette époque, et donc plutôt bien vu des républicains. Bon. Tout va changer avec la Première Guerre mondiale. Des soldats nombreux vont combattre dans les rangs des armées françaises pendant cette guerre. 70 000 morts venus d'Algérie. Et après la Première Guerre mondiale, un certain nombre de ces soldats, mais d'autres personnes qui les rejoindront, vont s'installer durablement sur le territoire métropolitain. On pense qu'il y avait à peu près 200 000 personnes venues d'Afrique du Nord, musulmanes, sur le territoire métropolitain avant 1940. Et puis, cette communauté va progresser lentement. Bon, je passe sur la période de la guerre d'Algérie, avec les événements que vous savez. Et en 1967, se produit le vote d'une loi qui contraint les Algériens présents sur le territoire français à choisir entre leur nationalité algérienne ou leur nationalité française. C'était une séquelle de la guerre d'Algérie. À ce moment-là, on compte à peu près 330 000 personnes. Je vous dis 1 700 000 aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est que pendant les années 70, l'industrie française a fait venir un grand nombre de travailleurs migrants qui étaient des travailleurs qui venaient seuls à l'origine, avec des contrats de travail qui étaient censés ensuite devoir repartir dans leur pays. Et puis la situation a évolué différemment et a été prise l'initiative au bout d'un moment d'un regroupement familial. Et donc s'est constituée une communauté d'immigrants stables, de personnes qui étaient, et ça je crois que ça n'a pas été très bien compris et très bien perçu pendant, enfin M. Khosrocavar pourra en parler mieux que moi, mais par la société française pendant longtemps, des personnes qui étaient destinées à rester sur le sol français. Et donc, un phénomène migratoire durable, pas des gens qui venaient et qui repartaient chez eux, mais qui étaient destinés à s'installer. Et donc, à ces migrants d'origine algérienne sont venus s'ajouter des migrants marocains, tunisiens, puis ensuite des migrants du Sahel, qui ont fini par constituer une communauté musulmane très diversifiée, et ça nous en reparlerons, sans homogénéité, contrairement à la présentation qui en est parfois faite, mais qui est destinée à rester durablement sur le sol français. Alors, cette communauté a suscité des réactions que nous pouvons, je crois, sans crainte qualifier d'islamophobes, qui se sont traduites aussi bien dans le développement de certains phénomènes politiques du type Front National que dans des formes de rejet, de xénophobie, voire de racisme, qui sont présentes, y compris souvent, dans l'implicite du discours qui est tenu sur les communautés migrantes en France. L'équation migrant égale musulman est profondément inscrite dans beaucoup de têtes. Et elle a contribué au développement de tout un discours à la fois de rejet de l'immigration, mais en même temps d'islamophobie, parce que les deux termes, migrant et musulman, sont associés. Alors, quelles sont les quelques-unes des images qui sont colportées et qui prêtent quand même au moins à discussion? D'abord, l'idée de la submersion du nombre. Cette idée que les musulmans sont destinés à nous envahir et à renverser ce qui a été la culture, la société française, hérité du passé. Ce n'est pas une idée nouvelle du tout. Et c'est une idée, je peux en témoigner pour avoir enseigné l'histoire de la naissance de l'islam et de l'expansion musulmane au 7e siècle, c'est une idée qu'il est parfois difficile de combattre. L'idée que, à partir de deux oasis d'Arabie, au 7e siècle, d'un seul coup, tout le sud de la Méditerranée, comme une espèce de flambée, et puis ensuite à l'est vers la Perse, est devenu musulman. C'est complètement faux sur le plan historique. L'expansion est traditionnellement datée le début de 632. Les musulmans traversent le détroit de Gibraltar en 711. Il s'est produit quasiment un siècle. Pour une flambée conquérante, c'est beaucoup de temps. Et puis l'image qui va avec, c'est que ces cavaliers arabes musulmans qui conquéraient ces territoires convertissaient immédiatement toute la population de force à l'islam. C'est également totalement faux. L'Égypte est là pour montrer que une population copte est restée en Égypte, ne s'est pas convertie à l'islam. Bertrand Flusin, un byzantiniste français, a montré que le gouverneur de la ville de Jérusalem, au Xe siècle, se plaint que la ville de Jérusalem est encore majoritairement chrétienne. Les derniers évêchés catholiques, chrétiens, disparaissent d'Afrique du Nord au XIIIe siècle. Donc, cette submersion du nombre est fausse, et l'image qui l'accompagne d'une conversion presque automatique ou forcée à la religion musulmane est tout aussi erronée. Mais c'est une image qui, aujourd'hui, nourrit un certain nombre de discours sur l'islam et contre l'islam, et qu'il est parfois difficile de réfuter. Autre image qui a accompagné l'implantation de la religion musulmane en France, je ne donne que quelques thèmes, mais on pourra en discuter d'autres, c'est la question des femmes. Bon. Dans l'affaire du voile, du foulard islamique, à l'époque, moi j'étais journaliste à Libération, en 89, quand cette affaire a commencé, je m'occupais des pages rebonds du journal Libération. C'est le sujet sur lequel nous avons reçu spontanément le plus de tribunes, j'y suis resté 6 ans, le plus de tribunes de contributeurs qui voulaient s'exprimer sur cette affaire du foulard. On n'imagine pas ce que ça a été, les passions que ça a pu déchaîner. Et un des thèmes qui était très fréquemment abordé, c'était l'idée que ce foulard était un mode d'asservissement des femmes. Bon, ça mérite au moins d'être discuté et de se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu la projection sur l'islam d'une vieille idée anticléricale française qui a fait que la France est le pays dans lequel les femmes en Europe ont eu le droit de vote le plus tard, hein, en 1945. Enfin, il y a la Suisse, on dirait, il y a encore quelques cantons suisses. Mais parce que les républicains pensaient que les femmes voteraient comme le clergé. C'est la vieille expression c'est l'expression de Georges Bidault en 1944 quand il fonde le MRP, qui dit avec les femmes et les évêques, nous aurons la majorité. Ils l'ont eu, pas longtemps, mais ils l'ont eu pendant un petit moment. Et donc la question qui se pose, que nous pouvons nous poser, est de savoir si, certes, un débat peut avoir lieu sur le statut de la femme en islam, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de projeter un lien féminité, féminisme, religion propre, ou en tout cas hérité du catholicisme, sur la place des femmes dans ces sociétés musulmanes. C'est une question que je pose. Troisième ressort d'une forme d'islamophobie, c'est le rejet du communautarisme ou du multiculturalisme. C'est-à-dire l'idée que si un certain nombre, je ne dis même pas de droits, mais si une place est faite non seulement à l'islam, mais aussi à d'autres formes d'expression religieuse ou de croyance religieuse dans notre société, eh bien, le lien social va se déliter, que nous allons évoluer vers des formes de communautarisme et que c'est toute la société qui serait menacée d'éclatement. Et lié à ça, un discours, parfois et avec vigueur, sur le risque de voir la communauté musulmane demander qu'on lui applique la charia et pas la loi républicaine. Des exemples tirés d'ailleurs de la Grande-Bretagne étant agités à ce sujet. Bon, pour l'instant, il n'est pas connu de fait où des personnes se réclamant appartenant à la religion musulmane refusent d'appliquer la loi républicaine dans leur vie quotidienne. Mais c'est un spectre qui est souvent agité. Donc cette communauté qui s'est constituée progressivement, qui a grossi, qui est aujourd'hui difficile à dénombrer, parce que, mettons même de côté le fait que les enquêtes statistiques sur l'appartenance religieuse sont difficiles à mener, y compris en raison de la loi qui les interdit partiellement. Mais qui est musulman en France aujourd'hui? Est-ce que le fait d'être d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne, faites-vous un musulman? Est-ce que c'est être musulman, c'est le fait d'aller à la mosquée tous les vendredis? Comme être catholique serait le fait d'être catholique pratiquant. Est-ce qu'être musulman, c'est faire le ramadan? Une bonne partie de cette communauté fait le ramadan, mais ça n'implique rien sur la croyance ou le niveau d'adhésion de ceux qui le font à la religion musulmane. Donc le dénombrement même est un facteur d'agitation, de crainte, et là aussi, alors il est paru sur le site du Monde une enquête assez sérieusement faite il y a à peine une dizaine de jours sur ce sujet, qui situe ce nombre de musulmans en France, mais encore une fois, musulmans par leur origine nationale, hein, pas par leur appartenance confessionnelle, autour de 5 millions de personnes. Mais la fourchette, elle va dans les enquêtes qui sont produites, de 2 à 10 millions, de 2 à 10. Donc que de fantasmes sont agités à ce sujet, toujours la crainte de la submersion du nombre que j'ai évoquée tout à l'heure. Troisième point, pardon, je suis trop long, la question de la laïcité. Alors j'irai très vite sur ce point. L'idée qui est souvent agitée est que l'islam ne connaît pas la séparation du temporel et du spirituel, du politique et du religieux. Il ne la connaît ni plus ni moins que les autres religions. Il est opposé aux musulmans, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais d'une part, cette parole-là, prononcée par un Jésus juif, reprenait une tradition juive bien plus ancienne que le seul Nouveau Testament. Et si dans l'islam, il a pu se produire à un moment une confusion entre le chef spirituel et le chef politique, c'est au moment où a existé la communauté du prophète, entre 622 et 632, ou 631, à Médine. Bon, d'abord, c'est une période sur laquelle, historiquement, nous ne sommes quand même pas très bien renseignés. Et puis ensuite, il a existé toutes sortes de combinaisons dans les différents régimes dont les populations étaient majoritairement musulmanes, où certains chefs avaient se voyaient reconnaître une situation sacrée. Le roi du Maroc est toujours le commandeur des croyants. Et puis d'autres cas dans lesquels, ou calife ou sultan, se voyaient nier, ou par leur comportement, ou par leurs actions, cette qualité. Et ni plus ni moins que dans l'histoire de l'Occident européen, où la guerre entre le roi et le pape, le roi et les empereurs, n'a jamais cessé, et où les révolutionnaires français ou Napoléon ont emprisonné deux papes successivement. Donc, cette idée que l'islam serait incompatible avec la laïcité, entre guillemets, à la française, me semble une idée fausse, là aussi un lieu commun véhiculé et qu'il convient de revisiter. Et donc la question à se poser, c'est celle de savoir ce qu'il en est aujourd'hui de la laïcité française par rapport à cette modification, cette mutation de notre société, de notre paysage religieux, et pas seulement à partir des lois de 1905. La loi de 1905 est une loi, je me réfère là à deux juristes qui viennent, notamment Stéphanie Hennette-Vaucher, qui vient de publier un petit livre sur le sujet. Elle n'est pas particulièrement philo-catholique, loin de là, si j'ai bien compris ce qu'elle écrit, mais où elle explique que ces lois de 1905 sont très libérales par rapport à la religion. Ce sont des lois qui veulent absolument garantir la liberté de culte. C'est plutôt, je dirais, dans le débat public, l'interprétation qui est faite de l'idée de laïcité qui, aujourd'hui, bloque un certain nombre d'évolutions que le législateur ou les tribunaux administratifs sont tout à fait prêts à admettre. Il y a eu une décision du Conseil d'État de juillet 2011 qui, sur la question du financement de la construction de mosquées par les collectivités locales, a trouvé ce que les Canadiens appellent un accommodement raisonnable qui permet aujourd'hui aux collectivités locales de participer à l'édification de lieux de culte sans se voir immédiatement opposer l'article 2 de la loi de 1905. Donc le problème, il est peut-être plus du côté de la laïcité que du côté de l'islam lui-même. En tout cas, ça pourrait être débattu au moment des questions. Enfin, et ce sera une phrase de conclusion, là, je me réfère à quelques sociologues spécialistes de la question. L'islam aujourd'hui est traversé en France, comme toutes les religions, par une individualisation des manières de croire et des pratiques qui fait qu'il est extrêmement difficile de l'aborder de façon globale, homogène, de dessiner un islam avec un U majuscule, mais que sa connaissance, la plus précise et peut-être la plus enrichissante possible, passe par la confrontation avec les autres formes de croyance, par un débat sur les formes de l'adhésion religieuse aujourd'hui, et cette individualisation du croire sur laquelle notamment beaucoup insisté Daniel Hervieux-Léger est sans doute un des premiers points à prendre en compte lorsque l'on veut aborder aujourd'hui la question de l'islam. Merci.
Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Poutier pour ces éléments. Je crois qu'il était utile de nous rappeler ou de nous dire ou de donner ces informations sur la constitution de la communauté musulmane, données historiques, de rappeler quelques images, lieux communs, images, enfin tout ce qui traîne ici et là dans la mémoire et dans les discours politiques aussi. Et puis merci pour cette réflexion ultime sur la laïcité, qui on sent qu'en effet c'est une grande question de notre pays et qui n'en a pas fini d'être interrogée. Tout de suite, je donne la parole à M. Khosrow-Khavar.
Merci. Après ces propos qui me paraissent bien cadrer notre problématique, je vais, moi, me concentrer un peu sur des thèmes moins généraux, plus spécifiques, et surtout sur un certain nombre de choses qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler maintenant la problématique de la radicalisation. Cette notion, si vous voulez, a été introduite dans les sciences sociales de manière massive après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire l'attaque des deux tours jumelles à New York, la mise à mort de quelques 3000 personnes, juste un tout petit peu moins, à New York et à Pentagone. Et là, il y a eu une sorte de mise en perspective de cette notion avec des études, des centaines d'études qui ont été commandées, ensuite des milliers qui ont tenté de cerner ce qu'on pourrait appeler le profil de ceux qui se radicalisent, la manière dont il faut les combattre, les réseaux qu'ils constituent et la solution qui consisterait en quelque sorte à les neutraliser, soit en les déradicalisant, soit en les combattant efficacement. Il s'agit pour de nombreux états-majors, si vous voulez, dans le monde occidental, d'une nouvelle forme de guerre, même si ce n'est pas une guerre au sens meurtrière, si vous voulez, des guerres classiques. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une sorte d'état, d'esprit, si vous voulez, guerrier qui y préside, et par conséquent, il y a une mobilisation de part et d'autre dans les sociétés, pas seulement d'ailleurs les sociétés chrétiennes, mais aussi les sociétés musulmanes. N'oublions pas que plus de 90% des morts causées par ce qu'on pourrait appeler le phénomène de l'islam radical se produisent dans les sociétés musulmanes. Et il y a une petite proportion, moins de 5% vraisemblablement, qui se déroule dans des sociétés non musulmanes. Un autre point qui me paraît fondamental, c'est que la radicalisation, comme telle, est un phénomène toujours exceptionnel. Je veux dire que sur les quelques millions de musulmans, aux alentours de 4 à 5 millions, comme nous l'a dit notre ami il y a un instant, il y a peut-être quelques 2 ou 3 000 qui ont été identifiés par le ministère de l'Intérieur comme étant susceptibles d'une radicalisation violente. Et parmi eux, il y a vraisemblablement un pourcentage encore plus faible qui passe effectivement à l'acte. Donc, phénomène ultra minoritaire. Mais, et c'est là c'est quelque chose qui est quand même fondamental, les sociétés ne vivent pas rien que sur les nombres. Je veux dire que la manière dont se structure notre affectivité n'est pas liée primordialement sur le quantitatif. Par exemple, les 17 morts de janvier dernier, Charlie Hebdo, plus les policiers, plus les juifs, ça ne fait pas l'effet de 17 morts. Ça fait l'effet peut-être de plus de 17 000 morts. Je veux dire, il y a une dimension symbolique dans la société qui est fondamentale et qui ne se laisse pas réduire à ce qu'on pourrait appeler une vision quantitative ou quantitativiste de la réalité sociale. De même, j'étais à New York juste après le 11 septembre 2001, c'était un mois et demi après, et j'avais eu l'impression, vraiment, en discutant avec des New-Yorkais, qu'il ne s'agissait pas de 3 000 morts, mais de 3 millions. Je veux dire, il y a une dimension qui relève de la symbolique pure, qui relève de ce qu'on pourrait appeler notre vivre ensemble, et qui touche les citoyens sous une forme qui n'a rien à voir avec le nombre des victimes. Ça, c'est une sorte de donnée primordiale dans toutes les sociétés. Je pense que le sentiment de menace que l'on ressent en France et même maintenant dans la plupart des sociétés européennes à ce sujet est liée à ce fait fondamental. On peut le qualifier de puéril, on peut le qualifier, si vous voulez, d'irrationnel, mais peu importe, les sociétés sont ce qu'elles sont, c'est un ensemble symbolique et où il y a la sacralisation d'un certain nombre de faits, dont la liberté de la parole en France, qui fait que quand on y touche sous cette forme violente, eh ben cela déclenche, comment dire, une sorte de ferveur collective et qu'on a vu d'ailleurs dans les manifestations qui ont été le dimanche, il y a quelques semaines, les plus grandes manifestations de l'histoire de France dans les dernières décennies. Donc c'est un phénomène, encore une fois, où la perception de ce qu'on pourrait appeler le danger et la réalité du danger sont en un sens en rupture, en déconnexion. 17 morts, c'est 17 morts de trop. Mais cela a fait l'effet d'une bombe. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a des morts sur la route, il y a des morts causées par les mafias marseillaises, lyonnaises, etc., et dont le nombre peut être extrêmement élevé sur une année, mais ce n'est pas le même effet. Donc, il y a une dimension dans ces phénomènes de ce que je pourrais, moi j'appelle la symbolique du vivre ensemble, qui sont touchées, ces dimensions-là, par le djihadisme et par ces formes extrêmes de violence qui touchent les citoyens et qui relèvent d'un autre registre que de celui de ce qu'on pourrait appeler la mort banale, la mort quantitative, la mort liée à ce qu'on pourrait appeler la criminalité quotidienne, ordinaire. Donc ça, c'est donc un fait qui touche la société dans ce qu'on pourrait appeler ses fondements symboliques. Ça, il faut le comprendre pour pouvoir analyser ensuite la disproportion qui existe entre le sentiment de menace que l'on éprouve et la réalité de cette menace qui, sur le plan quantitatif, encore une fois, est extrêmement faible par rapport à d'autres formes de violence liées à la guerre, liées aux intempéries, liées vraiment aux catastrophes naturelles, etc. Ça, c'est un phénomène. Les sociétés ne sont pas des ensembles rationnels, entre guillemets, qui pourraient être comme animés par une forme de logique arithmétique fondée sur une vision de soi et de l'autre quantitativiste. Ce n'est pas vrai. Nous vivons parce que nous sommes ensemble. Et ce vivre ensemble constitue une sorte de lien entre nous qui n'a pas de rapport immédiat avec le quantitatif. C'est plutôt le qualitatif, c'est plutôt l'affectif, c'est plutôt le sentiment de partager le même monde, les mêmes formes de sacralité. Bref, il y a quelque chose qui cimente le vivre ensemble et ce quelque chose a été touché par exemple par les événements meurtriers du janvier 2015. Le deuxième problème que je voudrais soulever, c'est les formes que revêt la radicalisation actuellement en Europe et plus particulièrement en France. J'ai travaillé là-dessus depuis assez longtemps, travaillé dans les prisons en France, puis ailleurs, dans d'autres sociétés. Ce qui me paraît fondamental, c'est que la radicalisation présente dans le djihadisme, c'est-à-dire la version extrémiste de l'islam, qui n'est absolument pas l'islam, puisque ça concerne une infime minorité de musulmans, et de musulmanes de plus en plus, et que ça n'a rien à voir avec le vécu, ni l'action, ni le mode de comportement de l'écrasante majorité des musulmans. Mais cette radicalisation, quand elle se produit, crée des formes extrêmes de déshumanisation. Et cette déshumanisation est réciproque. C'est-à-dire que l'individu se déshumanise et de ce fait même, il a tendance à déshumaniser l'autre. Et on est face à ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de religiosité que j'appelle depuis plusieurs années une religiosité mortifère. C'est-à-dire que le sacré, au lieu de se concentrer sur la vie, se focalise sur la mort. Et il y a comme une sorte de prééminence de la mort donnée comme de la mort reçue, qui prend un relief tout particulier. Maintenant, il faut anthropologiser, il faut contextualiser ces idées-là que j'ai développées dans ce petit livre, dans ce livre de 200 pages, que je ne saurais pas vous transmettre, si vous voulez, dans son intégralité en une quarantaine de minutes. Alors, pour faire bref, je dirais que la radicalisation en France et dans une très grande mesure en Europe s'est produite depuis la fin des années 80, et cela selon une sorte de modèle qui a subi une mutation très profonde il y a 2 ans. Le modèle classique, si vous voulez, de radicalisation djihadiste, puisque c'est l'élément fondamental, il y a eu aussi une forme de radicalisation, si vous voulez, d'extrême droite violente, par exemple, dont on a vu un cas percutant, tragique, en Norvège, il y a 1 an et demi, avec Breivik, qui a tué quand même 70 jeunes, et puis blessé plus d'une centaine. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça fait quand même quelque chose d'extrêmement lourd. Et ça, ce n'était pas du tout au nom de l'islam, c'était au nom d'une idéologie d'extrême droite violente qui se voulait anti-islamique avant tout. Donc, le djihadisme n'a pas le monopole de la violence. Mais pour le moment, statistiquement parlant, le nombre de cas qu'on observe en Europe fait qu'on peut penser que cela couvre quand même l'écrasante majorité de la violence extrémiste dans ce continent européen où nous vivons tous. Le djihadisme, depuis une 20aine d'années, a connu évidemment un certain nombre de mutations, mais il a gardé constant un certain nombre de traits que je cite, si vous voulez, très brièvement. D'abord, en France, comme en Angleterre, comme dans d'autres pays de l'Europe, quand il y en a eu, c'est un phénomène qui touche ce qu'on pourrait appeler un certain nombre de quartiers sensibles. C'était, et cela demeure toujours, le fait, si vous voulez, des banlieues en France, des poor districts en Angleterre, des quartiers difficiles, des quartiers où il y a une ségrégation, où il y a un certain nombre de phénomènes liés au chômage, à la ghettoisation, à cette forme de subjectivité antagoniste vis-à-vis de la société. Bref, à ce que dans le jargon des banlieues, on a appelé à un moment, il y a un temps, la haine. La haine, évidemment, le mot haine n'a pas la signification dans ce contexte-là de ce qu'on pourrait trouver dans le Larousse. Et avoir la haine, c'est plutôt une sorte de rejet généralisé de la société à partir d'une vision victimisée de soi-même. Je m'explique. Si on regarde les jeunes d'origine immigrée, il y en a qui ont réussi dans la vie en France. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, par exemple, moi j'habite dans une banlieue qui n'est pas très loin de Paris, et il y a un très grand hôpital, et bien il suffit d'y aller pour voir le nom de beaucoup de jeunes ou de personnes, de médecins, de chirurgiens ou autres qui sont d'origine immigrée. Donc il y a une classe moyenne actuellement, et même moyenne supérieure, si vous voulez, de personnes d'origine maghrébine en France. Mais il y a aussi une partie de jeunes qui se trouve être dans un sens ségrégé dans des ensembles, dans des quartiers qu'on a appelés les cités, les banlieues, les quartiers d'exclusion. Et les sociologues ont donné plusieurs dénominations, si vous voulez, à ce phénomène. Et le djihadisme en France, si vous voulez, a ses origines sociologiques dans ces quartiers-là. Si on regarde le cas, par exemple, de Khaled Kelkal, 1995. Il fait sauter, si vous voulez, le métro, c'est la station Saint-Michel, le RER C, si mes souvenirs, ou B, si mes souvenirs sont exacts, et il y a 8 ou 9 morts, et il y a 10 morts, et il y a quand même plus d'une 20aine de blessés. Il y a ensuite, pendant 17 ans en France, une sorte de paix relative à ce sujet. Mais après, il y a le cas Merah, Mohamed Merah, qui quand même tue cette personne, dont quatre juifs, trois militaires, si mes souvenirs sont exacts, dont au moins deux des musulmans. Ensuite, il y a Mehdi Benouche qui tue quatre personnes dans le musée juif de Bruxelles l'année dernière. Ensuite, il y a évidemment les cas tragiques des deux frères Kachoui et de Koulibaly. Dans tous ces cas-là, il y a des précédents liés à ce qu'on pourrait appeler les banlieues. Ils ont vécu là, ils ont grandi là, avec des formes de désorganisation familiale, avec des formes de violence liées à leur intégration, en quelque sorte, dans ces quartiers d'exclusion, et avec ce qu'on pourrait appeler un phénomène de déviance généralisée. Ils sont tous pratiquement, sauf le frère aîné des Kachoui, passés par la prison. Donc, vie en banlieue, ségrégation, rupture avec la société, rupture intériorisée avec la société, subjectivité en termes de victimisation, sentiment que toutes les issues sont fermées et qu'il n'y a que la déviance, que la délinquance, que l'illégalité qui puisse vous faire accéder au statut de classe moyenne, prison. Et là, il y a un certain nombre de phénomènes qui se produisent, à savoir, quelquefois, une forme d'illumination, si vous voulez, born again, islamique, dans sa version extrémiste. Après, il y a d'autres faits qui s'articule sur cette espèce de triangle, c'est le voyage initiatique. Le voyage initiatique est fondamental. On n'y fait pas trop d'attention, mais je crois qu'il faut vraiment l'analyser en long et en large. Dès le début, dans le cas, par exemple, de Kelkal, il a fait un voyage, il a fait plusieurs voyages en Algérie où il y avait, n'oublions pas, le GIA. Il a eu des contacts, il a contribué à la mise à mort de l'imam Sahraoui qui était un modéré du fils à Paris. Et ensuite, il s'est engagé, si vous voulez, dans des épisodes meurtriers qui ont abouti à sa propre annihilation par les forces de l'ordre. De même, dans le cas de Mera, il a fait le voyage initiatique en Afghanistan, au Pakistan, il a eu des liens et après il a été de retour. C'est vrai du frère cadet des Kachoui et aussi de l'aîné. Les deux ont été au Yémen, ils ont suivi un certain entraînement militaire, mais aussi autre chose. Une sorte d'endoctrinement idéologique. Et enfin, le cas Koulibaly aussi, il semble avoir été en Turquie et de là, vraisemblablement, en Syrie. Mais ce n'est pas prouvé, cette partie-là. Alors, ce voyage initiatique, si vous voulez, c'est une façon de rompre avec sa société d'origine, de s'exiler en quelque sorte mentalement, subjectivement, du monde familier dans lequel on se trouvait, et en un sens de faire une sorte de mutation mystique mortifère. Alors là, on apprend d'abord le maniement des armes, la fabrication des explosifs, et puis on en arrive à une forme de cruauté qui déshumanise totalement l'autre. Et l'islam, dans ces phénomènes-là, c'est dans le phénomène de radicalisation, et c'est ça le paradoxe, est le dernier venu. C'est-à-dire, il y a d'abord radicalisation, il y a d'abord la haine de la société, le rejet total, le sentiment qu'on est en guerre avec les autres, et ensuite la légitimation, la sacralisation de ce phénomène par l'islamisation. Et souvent, ces jeunes, et moi j'en ai rencontré pas mal en prison, sont d'une inculture totale en relation avec l'islam. Ils ne connaissent pas grand-chose. Ce qu'ils connaissent, c'est finalement que le djihad est une bonne chose puisque c'est la déclaration de guerre à une société qu'ils détestent et qu'ils haïssent pour de multiples raisons, parce que précisément ils identifient à la société, ils pensent que cette société a été à l'origine de tout leur malheur. C'est ce que j'appelle la victimisation, c'est-à-dire la projection sur les autres de tous les méfaits, de tous les malheurs qu'on a subis pour de multiples raisons, origine sociale, rupture familiale, violence conjugale, une forme de focalisation sur l'autre qui devient en un sens le réceptacle de tous les problèmes et tous les malheurs qu'on a rencontrés. C'est dans cette espèce d'imaginaire obsidional que se construit en quelque sorte la sacralisation de la haine de l'autre qu'on appelle le djihadisme. Le djihadisme est marqué par une déstructuration fondamentale, une méconnaissance totale de l'islam et une forme d'identification en quelque sorte à l'islam de sa haine de la société. C'est la sacralisation de la haine, comme je l'ai appelé dans cet ouvrage. On sacralise sa haine parce que précisément on déteste cette société. Et on déteste cette société parce qu'on pense qu'elle est à l'origine de tous les malheurs qu'on a eu dans la vie. Bref, il y a comme une sorte de projection sur l'ensemble social de tous ces problèmes individuels, de tous ces problèmes mentaux, de tous ces problèmes psychologiques et de tous ces problèmes liés à l'incarcération, à la déviance et à la violence. Là, il faudra vraiment comprendre que dans cette logique-là, l'islam devient comme une sorte de prétexte. J'ai rencontré pas mal de ces djihadistes, il y en a plusieurs que j'ai rencontrés en prison, dans un rapport que j'ai fait pour le ministère de la Justice en 2013, et où on voit très bien comment la plupart sont dénués de la culture la plus élémentaire au sujet de l'islam, en termes de civilisation, en termes de théologie, en termes de droit, en termes de passé historique, bref, sur tous ces plans-là, ils sont d'une sorte, une sorte d'inculture totale. Ce qui fait que je pense que si on veut avoir une forme un peu plus équilibrée d'attitude de la part de ces jeunes, encore faut-il leur donner des éléments de religion que la culture hyperlaïque de la société leur dénie. Je veux dire qu'il y a une inculture au sujet de l'islam qui fait que plus on est en un sens sécularisé dans le sens inculte du terme, et plus on est ouvert à des formes d'aventurisme au nom du djihad contre la société. Pousser à l'extrême, si vous voulez, la déreligiosisation peut avoir des conséquences extrêmement paradoxales. Maintenant, cette radicalisation donne naissance aussi à un autre phénomène. Et ça, c'est ce que j'ai appelé dans cet ouvrage le héros négatif. C'est un mélange de narcissisme et de construction de soi en rupture avec la société, mais avec la complicité de cette société en relation avec ce qu'on pourrait appeler les médias. On fait tout pour que le récit de sa cruauté vis-à-vis des autres soit amplifié. Mera portait une sorte de caméra, si vous voulez, sur lui, qui filmait ses mises à mort, ses exécutions, si vous voulez, des individus innocents. C'est aussi le cas de plusieurs d'entre eux qui ont toujours tenté de faire en sorte qu'on assure une publicité à leurs actes répréhensibles. Il y a comme une sorte de rapport, je veux dire, entre l'intériorisation de la médiatisation de ces phénomènes et la cruauté de ces actes dans leur caractère indescriptible. Et c'est précisément la conjonction des deux qui fait que ces individus, de personnes insignifiantes qu'ils étaient auparavant, se transforment en quelque sorte en personnes hyper connues, en stars, si vous voulez, de la diabolicité. Et c'est ce qu'ils cherchent. Plus la société les déteste, plus la société les haït, et plus la société les rejette, et plus ils se sentent réconfortés dans la légitimité de cette religiosité qui est fondée sur la dénégation de l'autre. C'est dans ce sens-là qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs, et cette inversion des valeurs fait qu'ils prennent témoignage la société pour pouvoir, en un sens, l'intimider. Et dans cet acte d'intimidation de l'autre, par le déploiement d'une cruauté sans limite, on tente en quelque sorte d'inverser ce qu'on pourrait appeler l'identité que l'on revêtait jadis. Je veux dire, C'est des jeunes, par exemple, qui sont insignifiants dans les banlieues, sans travail, sans aucune personnalité reconnue socialement, puisqu'ils n'ont pas de travail qualifié, ils n'ont aucun rôle social positivement défini. Une fois qu'ils deviennent fameux, eh ben ils inversent, si vous voulez, cet anonymat dans l'indignité. Je veux dire, ils deviennent quelqu'un. Tout le monde en parle. Qui connaissait Mera à la veille de ses méfaits et qui ne l'a pas connue la semaine d'après? Pratiquement toute la presse mondiale en a parlé. D'autre part, ils font en sorte que ce mépris intériorisé qu'ils portent en eux-mêmes soit en un sens rétrojeté sur la société. Ils pensent que la société les méprise. Mais une fois qu'ils parviennent à inspirer la peur à la société, ils inversent en quelque sorte le vecteur du mépris. Puisqu'on a peur d'eux, on ne les méprise plus. Et donc, il y a comme aussi une assomption de soi dans le dépassement du mépris et dans la constitution de soi comme acteur, en quelque sorte, de la haine de l'autre. Un certain nombre de traits qui me paraissent très convergents dans leurs actes que j'ai décrits dans ce livre et dans d'autres ouvrages que je n'aurai vraisemblablement pas le temps de développer ici, me paraissent fondamentaux. Maintenant, je veux passer au second type de djihadisme, puisque je vous ai décrit un type, une sorte de, comment dire, de trajectoire anthropologique liée à ce qu'on pourrait appeler des phénomènes de subjectivité djihadiste. Maintenant, je voudrais introduire un second type qui n'a rien à voir avec le premier. Et là, depuis la fin des années 2013, avec l'exacerbation de la guerre civile en Syrie, on assiste à ce qu'on pourrait appeler l'avènement d'un nouveau type de djihadiste, celui-là de classe moyenne. Depuis qu'on a mis en place le numéro vert, il y a eu plusieurs centaines de cas de familles, si vous voulez, qui ont désespérément appelé les responsables du ministère de l'Intérieur pour leur faire part de leur désarroi face à leurs enfants de classe moyenne, vivant dans des quartiers de classe moyenne, des jeunes, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec la délinquance, avec les banlieues, avec la prison, avec la déviance, bref, des jeunes un peu comme la moyenne de ceux de classe moyenne qui se djihadisent. Et là, c'est un phénomène nouveau, étrange, qui choque beaucoup de familles, puisque souvent les parents n'ont pas eu la possibilité de percer à jour cette djihadisation de leurs jeunes, et ensuite ils les ont trouvés de l'autre côté de la frontière syrienne en train de se battre ou assénant la mort aux autres, quelquefois aussi succombant à la mort. Ça, c'est un phénomène nouveau et dont l'analyse ne peut pas suivre, si vous voulez, le fil directeur que je vous ai proposé pour ce qui est des jeunes djihadistes des banlieues. Il faut vraiment réfléchir autrement, il faut essayer de comprendre ce phénomène sous un autre jour et surtout essayer de voir comment, dans leur façon de concevoir le rapport à la société et aux autres, s'introduit un autre phénomène que celui de la haine. Les jeunes djihadistes des banlieues, si vous voulez, ont, ce que je vous ai dit, la haine de la société. Ce n'est pas le cas de ces jeunes de classe moyenne. La plupart d'entre eux sont animés par ce qu'on pourrait appeler une forme d'humanitarisme naïf. C'est l'humanitaire, si vous voulez, qui au début les tente. D'ailleurs, ils le disent, hein, l'humanitaire. Mais quand ils parlent de l'humanitaire, il y a comme une sorte de déformation du champ sémantique de l'expression. Ils sont plus ou moins influencés par ce qu'on pourrait appeler le récit djihadiste, et ceci par le biais de l'Internet, qui joue un rôle fondamental, des copains qui peuvent très bien agir de concert les uns avec les autres et à partir d'une sorte de compétition mutuelle, pousser les uns et les autres vers le même type de radicalisation. Il y a aussi un autre phénomène qui se surajoute à ces formes-là, à savoir l'introduction massive des jeunes filles dans ce phénomène. Dans le djihadisme classique des banlieues, le nombre des jeunes filles est dérisoire. Il y a eu quelques cas de femmes, mais qui étaient liées par des liens de famille, si vous voulez. C'était la femme de, la sœur de, des djihadistes. Et quelquefois, ils ont essayé de combattre dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, sous d'autres cieux, les forces de l'ordre, parce qu'il aurait été répressif. Par exemple, ce qu'on a appelé les veuves noires tchétchènes ont joué un rôle important dans le combat contre les troupes russes ou les troupes tchétchènes qui réprimaient les individus se réclamant de l'islam. De même, il y a eu quelques cas en Occident. On a parlé de Jihadi Jane, si vous voulez, dans le monde anglo-saxon. On a parlé aussi d'un certain nombre. Il y a eu de Muriel de Gock, une Belge, si vous voulez, qui s'est fait sauter et a fait tuer quelques individus en Irak, si mes souvenirs sont exacts. Bref, on a eu quelques cas. Mais là, on est face à une sorte d'afflux massif qui dépasse les 20% des jeunes qui se donnent pour vocation, si vous voulez, le djihadisme. Il y a un autre phénomène qui est tout aussi important et qui existait auparavant, mais qui était marginal, à savoir la conversion. On a des cas de conversion de juifs, de jeunes juifs, si vous voulez, au djihadisme. Deux ou trois cas, à ma connaissance, au moins. On a des conversions de jeunes, si vous voulez, appartenant à des familles totalement sécularisées, laïques, incroyants. On a aussi des cas de jeunes de familles catholiques et protestants. Et on a aussi des cas, beaucoup plus paradoxaux, si vous voulez, par exemple, d'un jeune d'une famille convertie au bouddhisme et dont le jeune, par la suite, se dissocie de la foi bouddhiste pour rejoindre le djihadisme et aller en Syrie. Ce phénomène est en un sens beaucoup plus troublant puisque on ne comprend pas quelle est la logique de ce mode d'action. J'ai un certain nombre d'idées que j'ai développées dans ce livre ou dans d'autres articles Le Monde ou dans quelques autres comme les cahiers de sciences sociales qui vont être publiés dans quelques jours. Il y a quand même chez eux une forme de djihadisme que moi j'appellerais, si vous voulez, le djihadisme à la douce. Je veux dire, le djihadisme des jeunes des banlieues, c'est quand même à la dure. C'est vraiment une sorte de rupture avec la société et la volonté de croiser le fer avec les autres. Cette aspiration à se venger de sa marginalité, de son exclusion, son emprisonnement, si vous voulez, de son incarcération. Bref, il y a une volonté de se venger qui est quand même explicite. Par contre, chez les jeunes, si vous voulez, qui sont de classe moyenne et qui partent au djihad, on ne trouve absolument pas cette dimension de haine. C'est autre chose. Et c'est cette autre chose qui me paraît être liée d'abord à ce qu'on pourrait appeler chez les jeunes filles, pour commencer, une sorte de post-féminisme désenchanté lié à une sorte de féminisme djihadiste mythifié. Alors, dans la forme que cela revêt, si vous voulez, n'était la dimension tragique, on aurait tendance à en sourire, et à juste titre. Mais il y a, par exemple, dans leurs affirmations, c'est que les jeunes garçons normaux, les jeunes garçons qu'elles fréquentent, ne sont pas fiables. Ils ont le cœur volage, ils sont totalement infantilisés, ils sont, en un sens, des adolescents attardés, et qu'un jeune qui accepte de mourir de martyr en djihad est quelqu'un de sérieux. Et par conséquent, ce jeune, si elle se marie avec lui, il les traitera de manière équitable. Il y a comme une sorte d'inversion des idéaux, si vous voulez, qui ont été légués à la société à partir de mai 68, qui me paraissent extrêmement significatifs. Je vous donne quelques éléments. Encore une fois, il faudra réfléchir ensemble sur ces phénomènes. Et ma propre recherche dans ce domaine est encore à ses débuts, puisque le phénomène est très récent. Je veux dire, ces dimensions anti-mai 68 chez ces jeunes. Si vous voulez, ceux qui se souviennent de mai 68, et je pense que dans l'auditoire, comme de ce côté, il y en a quand même quelques-uns et quelques-unes et qui en ont quand même un souvenir plus ou moins effacé. Et donc, ils ne sont pas totalement étrangers à ce phénomène de mai 68. Eh bien, il y avait quand même « faites l'amour, pas la guerre ». Eh bien, ces jeunes-là veulent faire la guerre et pas l'amour. Il y avait ce phénomène de partir en voyage initiatique. Moi, je me souviens, dans le temps, ils partaient, par exemple, j'étais très jeune dans le temps. Je ne le suis plus, mais bon, il y a quand même le souvenir. Alors, je me souviens très bien comment ils partaient en Afghanistan, au Katmandou. Il allait faire, si vous voulez, toutes sortes de fiestas. Bon, il faut prendre de la drogue, fumer. Maintenant, les jeunes partent dans ces contrées-là, mais pas pour faire la fiesta, pour faire la guerre. Il avait une sorte de débridement lié à l'amour, je vais dire, une émancipation totale, la remise en cause de ce qu'on pourrait appeler les contraintes sociales. Or, maintenant, il y a comme une sorte d'appel de contrainte, il y a comme une sorte de désir de contrainte. Tout se passe comme si, dans une société où la grisaille règne, l'absence de contrainte est vécue comme une forme de déficience, comme une forme de manque à être. Et ce manque à être doit être comblé par des formes de servitude de plus en plus violentes. Donc une sorte d'appel à une contrainte dont on assume les conséquences et qu'on voudrait bien aussi imposer aux autres. Il y avait ce qu'on pourrait appeler aussi la drogue, qui était quand même un élément fondamental dans l'émancipation, et une fête ininterrompue. Et le mai 68, c'était quand même cette espèce d'exaltation, si vous voulez, d'une fête ininterrompue. Or, maintenant, c'est plutôt, je dirais, l'exaltation d'une religiosité mortifère. C'est une forme de deuil intériorisé dans l'acte même d'asséner la mort ou de la recevoir. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de trouble anti-mai 68, du moins chez les jeunes de classe moyenne qui partent et qui me paraît symptomatique de ce qu'on pourrait appeler la déficience que l'on a dans les formes subjectivité, dans les formes nouvelles de subjectivité chez les jeunes. Dans un jargon relevant, si vous voulez, de Michel Foucault, d'Alain Touraine et puis d'autres penseurs de la sociologie à qui je dois beaucoup, on dirait qu'il y a une subjectivation déficiente. Il y a comme une forme de désubjectivation, de renoncement à être un soi qui est fondamental. Finalement, on ne peut étreindre le soi que dans la mort assénée ou dans la mort reçue. Et dans cette forme d'expression de soi, si vous voulez, on crée une sorte de fête où ce n'est plus l'exaltation de la vie qui prévaut, mais en un sens l'exacerbation de la mort. Bon, ces phénomènes me paraissent quand même nécessiter une réflexion plus approfondie sur ces formes de socialisation qui caractérisent les sociétés modernes, et notamment la notion d'autorité. Je crois qu'on est face à des formes de dilution de l'autorité qui font qu'il y a une aspiration à l'autorité répressive comme étant une sorte de desiderata pour un certain nombre de jeunes qui ne se reconnaissent plus dans ces formes de dilution où tout est peint en grisaille et où rien n'est, en un sens, séparé, surtout pour ce qui est de ce qu'on pourrait appeler l'autorisé et le prohibé. Moi, dans les prisons, souvent, des jeunes me disaient, l'islam m'apporte pour les convertis, ils me disaient leur version de l'islam, puisqu'il y a aussi un islam mystique qui n'a rien à voir avec ce phénomène et qui est beaucoup plus profond et qui me semble beaucoup plus enrichissant. Mais dans cette forme d'autoritarisme lié aux religieux, l'islam leur donnait le sentiment que, avec cette religion, on savait où est l'interdit, où était l'interdit et où était l'autorisé. Alors que dans les formes de religiosité ambiante, il y a une dilution. On ne sait plus ce qui est autorisé, ce qui est interdit. La contrainte devient en un sens inopérante. On n'a plus la capacité de construire un soi dans l'affrontement avec ce qu'on pourrait appeler l'adversité. Avant, il y avait aussi les phénomènes, si vous voulez, d'extrême gauche, d'extrême droite, mais surtout d'extrême gauche. Dans les années 70, il y avait quand même l'Action directe en France, les Brigades rouges en Italie, le groupe Bader-Meinhof en Allemagne. Bref, il y avait aussi une capacité de construire un soi dans l'antagonisme avec la société à partir de ce qu'on pourrait appeler des idéaux laïques. Or, ces idéaux laïques ont quasiment disparu dans leur, comment dire, dans leur capacité, dans leur aptitude à donner sens à des formes de lutte nobles. Et vraiment, l'islam devient là aussi un prête-nom, si vous voulez, dans la lutte contre l'oppression. Moi, ce qui m'a étonné dans mes recherches en prison et dans les banlieues, est que finalement, par l'islam, on cherche d'une part ce qu'on pourrait appeler une religion des opprimés, c'est-à-dire que je deviens le leader autoproclamé des opprimés qui, au nom d'Allah, lutte contre l'impérialisme américain, l'hégémonisme occidental, mais aussi la dissolution des mœurs. Combien de fois j'ai entendu dire que, bon, vous permettez l'homosexualité, vous permettez toute forme de déviance, et dès qu'une jeune fille porte le voile, vous trouvez que c'est vraiment le scandale des scandales. Bref, il y a une forme d'affirmation de soi dans la répression, autant au nom des opprimés qu'au nom de ce qu'on pourrait appeler la restitution de l'ordre bon. Évidemment, cet ordre bon est extrêmement répressif. On sait très bien que c'est une mythologie construite par ces jeunes. On sait très bien que cet ordre bon, personne n'en voudrait une fois qu'on le mettrait en branle. Mais cette utopie est dans l'arrière-plan de la subjectivation de ces jeunes du fait lorsqu'ils adhèrent en quelque sorte au djihadisme. Je ne veux pas trop vous... Enfin, prendre votre temps, il faudrait qu'il y ait quand même un espace de débat, mais disons que sur ces plans-là, il reste beaucoup à faire, une réflexion sur les formes d'autorité, sur la famille recomposée. Je pense que la famille recomposée a d'immenses aspects positifs, mais aussi un certain nombre de trous qui fait que l'autorité n'est plus là où elle devrait être, on ne sait plus où est l'autorité, et précisément, c'est aussi chez ces jeunes qui ont 15 à 17 ans, et dont les psychologues me disent, ceux avec qui je suis en contact et qui sont des chercheurs avec qui je mène quelques enquêtes, et me disent de plus en plus des jeunes sont dans une situation, ce qu'on pourrait appeler l'adolescence attardée jusqu'à l'âge de 25 ans, voire 29 ans. En d'autres termes, on est dans des situations où l'autorité tarde à venir, où l'autorité tarde à se concrétiser et où l'appel à l'autorité revêt dans la symbolique idéalisée de ces jeunes, si vous voulez, une dimension hyper répressive. Merci de votre écoute.
Eh bien, un grand merci pour ces éléments extrêmement éclairants, enfin, au fond, ces clés que vous nous apportez, enfin, de l'insistance sur la dimension symbolique, hein, de l'événement, enfin, on peut dire des premiers événements jusqu'à la réaction du 11 janvier, je veux dire, cette marche, hein, il y avait une force symbolique considérable. La présentation des deux formes de djihadisme, je pense que la découverte de la deuxième est certainement un élément extrêmement nouveau pour la plupart d'entre nous, parce que finalement, assez spontanément, bien sûr, on parle en termes de banlieue, de cité, d'intégration sociale, et finalement, on verrait plus facilement, enfin, ils ne sont pas si faciles, mais on verrait plus facilement des remèdes, au fond, à la résolution, hein, de ces difficultés. Et dans la deuxième forme, vous nous faites sentir une logique peut-être plus subtile, si je peux dire, mais enfin qui touche à des racines extrêmement fortes de la société. Enfin, laïcité, on a au fond des deux côtés parlé de la laïcité, mais l'autorité, le rapport à l'autorité et des classes moyennes dont on peut penser que pour la plupart, ne sont pas passées par la prison. Voilà. Donc, que se passe-t-il? Enfin, c'est vraiment extrêmement frappant et ça nous interroge beaucoup. Alors, Nous avons maintenant un temps pour des questions. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas poser une question. Un micro va circuler. Je vois déjà beaucoup de bras qui se lèvent. Un micro va circuler dans cet auditorium. Les personnes qui sont dans d'autres salles peuvent venir et se manifester éventuellement au fond de notre auditorium pour poser des questions. Alors, nous allons recueillir trois questions d'abord. Et voilà, de manière à ne pas prendre d'emblée simplement la première question qui vient. Voilà, je vois une question au deuxième rang à ma droite. Il faut ouvrir le micro et parler dans le micro. Et une recommandation générale, formuler une question de façon assez brève. Et plutôt une seule question.
Bonsoir et merci. Avant la question, je voulais saluer le courage des organisateurs. Ah,
non.
J'ai manqué de courage, alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Je voulais remercier le courage des organisateurs et des intervenants pour aborder le sujet sous un angle qui n'est pas du tout vendeur, qui n'est pas habituel, qui fait que c'est difficile de passer dans les médias quand on tient ce discours. Et je reconnais toute la valeur des angles d'analyse qui ont été les vôtres, parce que je partage ça à titre personnel et à partir de mon expérience personnelle. Une question pour M. Koskro-Kovart. Je prononce mal et désolé. Je trouve très pertinente cette analyse selon laquelle ce qui est recherché par ces jeunes, c'est une certaine forme d'autorité, un sens des limites, un sens de l'interdit, un sens de la contrainte et de la discipline. Si on sortait du contexte du jeune de confession musulmane, c'est une crise et un besoin que ressent tout jeune aujourd'hui en France et de manière plus générale en Occident, mais plus fortement en France parce que mai 68 c'est d'ici. Comment se fait-il que les autres non musulmans, donc d'autres jeunes, n'expriment pas ce besoin et cette crise sous cette même forme? Voilà, donc ils n'ont pas tous basculé dans l'extrémisme. Quelle autre forme est-ce qu'on a développée?
Merci pour votre question. Merci des encouragements que vous portez aux organisateurs aussi. Au troisième rang, et puis ensuite nous irons dans l'allée. Au troisième rang, monsieur.
Oui, ma question s'adresse à monsieur Koskovart. Vous avez expliqué le djihadisme par la haine sociale essentiellement. Et puis, le 7 janvier, on a constaté que l'un des frères Kouachi disait « Nous avons vengé le prophète ». Autrement dit, il était en train de se transformer en martyr, en chaïd, et on sait qu'il avait, a priori, fait le sacrifice de sa vie. Alors, je m'explique mal qu'un mot n'ait pas été prononcé dans cette enceinte, c'est le mot « Coran ». Est-ce qu'on ne peut pas faire, j'allais dire, l'honneur à certains djihadistes de croire qu'ils se fondent sur des aspects religieux qui méritent, d'une certaine façon, le respect?
Voilà, merci, monsieur. Dans l'allée, voilà. Dans l'allée, voilà. Une troisième question pour une première vague de questions.
En fait, ce n'est pas une question. Je voulais apporter certains éléments d'information, en particulier par rapport à l'intervention de M. Jean-Luc Poutier. J'ai vaguement entendu dire que c'était presque interdit de faire des enquêtes sur la religion et les origines ethniques en France. Alors, je voudrais rétablir une vérité. J'ai travaillé pendant 15 ans sur la politique de la ville, au ministère de l'équipement, à la délégation interministérielle à la ville. Donc vous pouvez trouver l'enquête qui s'appelle Trajectoire et origine. Vous tapez sur Google enquête T majuscule E minuscule O minuscule O majuscule et vous aurez toutes les informations, en particulier sur la religion, les origines ethniques, toute l'histoire presque de l'immigration en France, il y en a 200 pages. Bon.
Voilà, merci, merci. Alors, à part... Merci, merci, madame. Voilà, nous avons trois interventions. Monsieur Cosre-Cavard.
J'ai parlé du djihadisme comme haine sociale, mais j'ai dit aussi que dans le modèle classe moyenne, il n'y avait pas de haine sociale. Donc qu'il y a deux types de djihadisme. Dans le premier modèle lié à ce qu'on pourrait appeler une sociologie des banlieues, la haine comme une forme de subjectivation antagonique vis-à-vis de la société joue un rôle fondamental. Mais pas dans le second. Dans le second, j'ai dit qu'il y avait un autre phénomène qui se conjuguait dans un rapport lié à l'autorité, à l'humanitaire, à des modes d'expression de soi liés à ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs des phénomènes de conversion. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'y a pas que les musulmans. Dans le phénomène classe moyenne, il y a aux alentours du quart des individus qui se convertissent. Donc qui ne sont pas de racines, musulmanes, qui n'ont pas, en un sens, d'enracinement, en quelque sorte, dans la culture musulmane. C'est plutôt la rupture. Mais c'est l'attrait de cet islam imaginé, mythifié, utopisé, si vous voulez, qui donne un sens à leur engagement. Donc c'est leur construction mentale de l'islam qui est en jeu. Et c'est précisément cette version de l'islam qui, en un sens, est une version, je veux dire, purement fictivisée, qui joue au moins autant un rôle fondamental que ce qu'on pourrait appeler le corpus religieux, dont il ignore dans une très grande mesure l'existence. C'est pour cette raison que quand on dit le Coran, si vous voulez, moi, mon expérience des djihadistes, c'est que d'abord, ils se radicalisent, et ensuite, ils essaient de trouver dans le Coran un certain nombre de thèmes. Et d'ailleurs, leur lecture du Coran est fondée souvent sur quelques sourates. Il y a deux sourates les plus importantes, si vous voulez, qui sont la sourate du repentir et la sourate Anfal, c'est-à-dire trésor de guerre, etc. Et donc, ils ignorent totalement le reste du Coran. Le Coran, c'est comme les autres livres sacrés, on y trouve ce qu'on veut. Je veux dire, si vous voulez la haine, vous y trouvez. Si vous voulez l'amour aussi, il y a pas mal de versets dans le Coran qui sont extraordinaires. Par exemple, il y en a un que je cite de mémoire, c'est ce qu'on appelle les hérétiques. Et il dit, vous les hérétiques, vous croyez à ce que je ne crois pas, et moi je crois à ce que vous ne croyez pas, à chacun sa religion. Donc il y a dans le Coran un ensemble de phénomènes, si vous voulez, dont l'interprétation relève du parti pris de l'interprétant. De même, si vous lisez Jérémie, je ne sais pas moi, dans la Bible, il y a quand même des passages extrêmement violents. Et donc, et pourtant, la Bible ne se réduit pas à ces violences-là. Donc il faut comprendre que leur version de l'islam est d'abord la haine de la société, ensuite l'enracinement de cette haine dans une forme d'acculturation dont ils parachèvent, si vous voulez, la trajectoire, souvent en prison, parce qu'ils ont du temps. Alors ils lisent le Coran, ils lisent les textes sacrés, d'ailleurs ils ne lisent souvent pas en arabe, puisqu'ils ne maîtrisent pas l'arabe, ils lisent souvent dans la traduction française, comble de paradoxe. Je veux dire, cette France qu'ils détestent, en un sens, sa langue devient le véhicule, en quelque sorte, de leur expression de soi, au terme du religieux, et par conséquent, ils essaient de trouver des justifications ex post facto dans les livres sacrés. Et c'est cette trajectoire. Après, il y en a quelques-uns qui approfondissent, mais disons qu'ils peuvent être comptés sur le bout des doigts de deux mains. Par conséquent, le phénomène, si vous voulez, a une dimension sociologique, anthropologique, beaucoup plus que théologique. Il y a une théologie fruste dedans. Il y a une théologie extrêmement, je veux dire, rudimentaire, fondée sur des ouï-dires, sur l'Internet, et pas du tout sur une compréhension approfondie des textes sacrés et de la tradition islamique.
Vous avez travaillé sur les prisons. On aurait dire, ça se passe comment dans les prisons? Il y a les rassemblements, il y a les groupes, il y a des leaders, il y a...
Ah, il faudrait une autre séance. Comment vous... La prison, j'ai travaillé 6-7 ans dans les prisons, enfin deux fois trois ans, et je peux vous assurer que c'est toute une histoire. Enfin, mais disons que les prisons ne sont pas des lieux de rassemblement comme cela. Il y a quand même une surveillance, il y a quand même une mise en demeure. Mais cela étant, c'est la surpopulation carcérale, c'est l'absence d'effectifs de surveillants, c'est la déshumanisation mutuelle du fait même de l'environnement carcéral, surtout dans les maisons d'arrêt qui jouxtent les grandes villes. Je veux dire, dans les maisons centrales, c'est-à-dire là où il y a une condamnation à plus de 10 ans, si vous voulez, c'est un peu comme, moi je dirais, des chambres d'hôtel sans étoiles. Mais par contre, dans les maisons d'arrêt, ça peut être infernal pour les détenus comme pour les surveillants quand il y a une surpopulation qui dépasse quand même le seuil de la décence.
Au fond, il faudra revenir pour une conférence sur les prisons. Voilà, nous prenons un deuxième jeu de questions. Je vois tout au fond, en haut de l'auditorium, une main qui se lève. Donc vous posez votre question.
Merci beaucoup, parce qu'en plus je viens d'une autre salle. Je voudrais vous poser une question à tous les deux, s'il vous plaît, au sujet des imams et particulièrement des centres de formation en théologie et des centres de formation des imams. Voilà, est-ce que cela joue un rôle majeur? Est-ce qu'il y a là peut-être une solution? Dans quelle mesure?
Puisque le micro est au fond de l'auditorium, peut-être y a-t-il une autre question en traversant... Je distingue pas bien ici les mains qui se lèvent ou ne se lèvent pas.
Oui, alors. Bonsoir. Je voulais juste... Il y avait un petit article dans un journal qui s'appelle Le Fardoré, il y a 15 jours, à propos de la prison de Saint-Martin-de-Ré, où l'imam officiel ne peut pas recevoir de pratiques, enfin de musulmans, parce que c'est interdit par les autres. Enfin, donc il a deux, trois visites en cachette, et il y a deux imams autoproclamés dans la prison, qui... font régner la terreur.
Merci.
Et c'est une maison de longue peine.
Une dernière question, je crois.
Bonsoir. Alors, moi, je suis une Algérienne. Donc, je suis venue d'Algérie pour faire des études. Et comme élément extérieur, je peux donner mon témoignage. Alors, j'ai habité dans la banlieue. Et je peux vous dire aussi que la haine, c'est aussi une conséquence. Parce que la mancheté ne crée pas la beauté. Dans les cités, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de verdure. Un enfant qui grandit dans la grisaille, tout est sale. Donc, il ne peut pas donner la beauté. Donc, déjà, à la base, il est détruit. D'une, et de deux aussi, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Après, il faut que l'enfant, confiance en lui-même, il faut aussi qu'il connaisse sa culture, la culture arabo-musulmane. Aussi, il y a des choses très belles. La langue arabe, il y a de la beauté, il y a de la calligraphie, la poésie, l'amour et tout ça. Donc, eux, comme ils ne connaissent pas leur langue, donc c'est déjà un handicap. Donc, ils ne connaissent pas très bien la langue française. Ils ne connaissent pas Molière, ils ne connaissent pas Victor Hugo. Ils ne connaissent pas aussi... sa propre culture. Alors c'est un no man's land de personne. Donc un petit témoignage. Après les événements de 2005 dans les banlieues, l'université de Paris 8 avait monté un projet. C'était un projet qui s'est passé à Séville en Espagne. Donc il y avait des étudiants marocains, des étudiants de Paris 8 et des Espagnols pour justement faire une analyse sur toute la civilisation arabo-musulmane andalouse. Et c'était un projet pour passer dans les différents lycées des banlieues pour leur parler de leur culture, de leur... Je ne sais pas si le projet, il a abouti à quelque chose, à aucune idée. Et voilà. Et je voulais dire aussi, dans la religion musulmane, la ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte dans la religion musulmane, dans la religion. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est amour. Nous vous aimons. Moi, j'aime la France, j'aime Paris, j'aime votre culture et votre langue. Merci.
Voilà. Merci, madame, pour votre témoignage. S'il y avait encore une dernière question, brève.
Bonsoir. Dans l'histoire de la présence musulmane en France, vous avez parlé donc de la communauté algérienne. Et donc, une question par rapport à cette communauté algérienne. Ces jeunes des banlieues, aussi algériens, sont porteurs de la mémoire collective de leur peuple. Donc, ne pensez-vous pas qu'au niveau politique, il n'y aurait pas aussi un devoir de réparation par rapport à l'histoire, la guerre d'Algérie qui a laissé des traces, enfin aussi comme un début de réconciliation entre les peuples?
Voilà. C'est une vraie question. Je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup possible d'y répondre ce soir. Mais Jean-Luc Potier, il y a eu la question des imams, la formation.
Alors la formation des imams, c'est une question, on ne va pas dire complexe, parce qu'a priori ça pourrait être plus simple, mais simplement, cette communauté musulmane, elle s'est constituée récemment, elle est, comme je l'ai souligné, extrêmement diverse, et vous venez de rappeler que la majorité des personnes venues de pays à majorité musulmane sont des Algériens, mais il y a aussi des Marocains, des Tunisiens, des personnes venues du Sahel, désormais des réfugiés aussi du Proche-Orient. Et par rapport à cela, la réponse politique de Pierre Joxe jusqu'à Nicolas Sarkozy a été de tenter d'organiser une représentativité de l'islam en France, un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Napoléon avec les Juifs sous l'Empire. Soyons simples, ça n'a pas marché. Et donc, cette représentativité est très éclatée et chaque courant à l'intérieur des musulmans de France cherche à avoir sa propre école de formation. Donc, vous avez une formation des imams à la mosquée de Paris, vous avez une formation des imams de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, qui est plutôt tendance frères musulmans, qui se fait dans la Nièvre, pas loin de Nevers. L'Institut catholique de Paris a tenté de monter sa propre formation. Moi, je vais vous donner une anecdote par rapport à cela. Il y a eu quelques années, assez longtemps, comme l'université de Strasbourg est en régime concordataire, il a été proposé que cette université ouvre un département de théologie musulmane, comme il existe un département de théologie protestante et un département de théologie catholique, pour former des imams. Et ça a été refusé. Et un de mes amis qui siégeait au conseil de l'université, devant lequel je m'étonnais que ça ait été refusé, depuis ça a un peu bougé, m'a dit « Mais enfin, on n'est pas quand même là pour former des imams, pas plus que des curés. » Mais les curés ne sont pas formés à l'université, ils sont formés dans les séminaires, et il ne s'agissait pas de former des imams, il s'agissait de développer une chaire de théologie musulmane. Bon. Et à partir de là, ceux qui auraient voulu devenir imams après avoir suivi des études de théologie musulmane pouvaient s'adresser aux différentes communautés. Le problème de fond, c'est que nous continuons à raisonner par rapport à la religion catholique. Je pense que 90% des catholiques pratiquants ne savent même pas comment sont choisis les pasteurs protestants. Alors, leur demander comment former et choisir des imams, c'est extrêmement compliqué. Le pouvoir politique, c'est comme Napoléon avec le Concordat, il payait les prêtres, comme ça il les avait sous le contrôle du pouvoir, parce que ça avait aussi cet aspect-là quand même, le Concordat. Hein. C'était pas seulement une œuvre de bienfaisance à l'égard de l'Église. Bon. Le pouvoir politique, il voudrait les contrôler, et puis les différentes tendances de l'islam de France voudraient avoir chacun, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, son école de formation. Je pense que ce qu'il convient d'avoir surtout, c'est de la patience. Tout ça est extrêmement récent. Nous sommes face à des phénomènes qui ont tout au plus une quinzaine d'années. C'est très peu de temps. Donc voilà, il est probable que tout cela va s'organiser petit à petit, se mettre en place et qu'un culte musulman existera comme il existe un culte catholique, un culte protestant ou des monastères bouddhistes sur le territoire français. Mais la patience est de rigueur, à mon avis.
M. Korskavar, sur cette question.
Oui, au sujet des aumôniers des prisons, il y a énormément de choses à dire. Une étudiante qui travaille là-dessus, qui fait une thèse, écoutez, le problème essentiel, c'est d'abord, en 2004, quand j'ai fait un livre qui s'appelait « L'islam en prison », j'ai dénoncé la pénurie des aumôniers musulmans et le fait que des personnes sans qualification pouvaient être des imams autoproclamés. C'est-à-dire des imams autoproclamés qui disent aux détenus qui cherchent à comprendre et en même temps à croiser le fer sur le plan symbolique, dire l'islam c'est le djihad, donc si tu déclares la guerre contre la société, tu es en plein dans la légitimité religieuse. Bon, ce qu'il n'y avait pas. Dans les plus grandes prisons de France, le nombre des aumôniers est dérisoire, mais il y a aussi un second problème, c'est que la plupart des aumôniers sont des gens qui ont un peu nos âges. Pour ce qui nous concerne, si vous voulez, l'âge, c'est la sagesse, mais pour ce qui est des aumôniers, le problème essentiel, c'est qu'ils ne comprennent pas la subjectivité des jeunes. Je veux dire, si vous avez des aumôniers de plus de 50 ans, 60 ans d'origine nord-africaine, qui par ailleurs sont des gens extrêmement recommandables, ils ne pénètrent pas dans la subjectivité des jeunes, et même quand ils sont présents, il y a comme une sorte de dialogue de sourds. Donc il faudrait qu'il y ait des aumôniers plus jeunes, qui soient, non pas, je ne veux pas dire made in France, mais disons des aumôniers qui comprennent la laïcité autant que la théologie musulmane et qui puissent débattre avec ces jeunes afin de leur donner un sens du sacré qui ne se réduise ni au djihad ni à l'exotisme d'une religiosité, si vous voulez, purement orthopraxique, ce que font la plupart de ces aumôniers. Et donc la question n'est pas seulement le nombre, et ça c'est pressant, mais aussi la formation et ce qu'on pourrait appeler les formes de subjectivité de ces aumôniers en prison. Et cela est une question qui, je ne pense pas pouvoir trouver une réponse sur le court terme, mais il faudrait tout faire pour que, sur le moyen et long terme, cela puisse avoir une issue heureuse. Moi, quand j'ai fait le livre, c'était en 2004, et déjà, je dénonçais, si vous voulez, cette pénurie d'imams. Le Premier ministre vient de débloquer le budget pour qu'il y ait l'embauche de 60 imams supplémentaires, mais il faudrait vraisemblablement entre 300 et 400 de plus.
Voilà, nous approchons de la fin de cette soirée. J'aurais peut-être une question supplémentaire à vous poser. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les pays, enfin sur les filières, disons, sur les pays qui sont les plus mobilisateurs par rapport à ces courants? Alors, on parle beaucoup du Yémen, la Syrie, est-ce que...
Si vous voulez, enfin, je voulais dire les pays qui sont les lieux de djihadisation et
tout
de radicalisation qui attirent le plus.
Tout à fait.
Eh bien, c'est les pays, si vous voulez, qui ont un état défaillant. Je veux dire, ça aussi, c'est l'une des conséquences indirectes de la crise des révolutions arabes. Quels sont ces pays-là? Après, vous savez, il y a quand même des cas de succès dans les révolutions arabes. Je crois que la Tunisie est vraisemblablement un cas extrêmement important qui peut servir par la suite de modèle. Mais on a assisté à ce qu'on pourrait appeler l'état défaillant en Libye, avec ce qui se passe, si vous voulez. C'est aussi une sorte de sanctuaire pour les djihadistes qui vont, qui viennent, ce qui a aussi causé en partie les problèmes liés au Mali, des causes locales mais aussi des causes externes liées à la Libye, comme une sorte d'arsenal pour les djihadistes. En second lieu, il y a le Yémen, avec la crise qui fait que l'État central est quasiment dans une situation d'inexistence officielle. Et enfin, et le cas le plus meurtrier, le plus tragique, c'est si vous voulez, le cas syrien. Une guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts, qui a causé quand même la souffrance de plusieurs millions qui ont été déplacés, surtout, enfin, au sein même du pays, par des déplacements importants, et aussi dans les trois pays limitrophes, à savoir la Jordanie, le Liban et la Turquie. Et c'est dans ce pays-là que cet État islamique monstrueux, Daesh, ou État islamique de l'Irak et du Levant, enfin de Cham, s'est constitué avec les exécutions sommaires que vous savez, mais sur une étendue qui est quand même un peu l'équivalent de l'Angleterre. Hein. Je veux dire, ça fait presque 300 000 km carrés. C'est quand même énorme. Alors, ça attire beaucoup de jeunes de l'Europe. On pense qu'il y a aux alentours de 4 000, enfin entre 2 et 4 000 qui ont été... qui sont partis là-bas, et là, tous les pays européens sont représentés pratiquement. La France, vraisemblablement un peu plus, le taux le plus élevé est celui de la Belgique, il y a aussi l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, bref, tous les pays de l'Europe de l'Ouest ont envoyé des gens, dont la plupart, si vous voulez, des classes moyennes, et qui sont allés là-bas, en un sens, proclamer la parole sacrée du djihad, et y prendre part, et surtout... Leur retour pose un vrai problème parce que parmi eux, il y aura trois groupes Il y a déjà trois groupes où on travaille là-dessus. Il y a ce qu'on pourrait appeler les djihadistes endurcis, c'est-à-dire qui vont là-bas, qui s'endoctrinent, puisqu'on les soumet à un processus d'endoctrinement sur plusieurs semaines, et de retour voudraient, en un sens, répandre le djihad dans leur propre société. Et là, ils sont extrêmement dangereux parce que, encore une fois, imaginez un événement comme ceux qui ont été créés par les deux frères par Koulibaly ou par les frères Kouachi ou bien par Mera, l'impact symbolique sur la société serait dévastateur. Surtout par la polarisation politique vers l'extrême droite, vers des formes, si vous voulez, d'action destructeur. Bref, c'est quand même extrêmement dangereux. Et puis il y a le second groupe, c'est fait de jeunes qui reviennent et qui sont traumatisés par la guerre et qui peuvent agir de manière irrationnelle, non pas parce que ils auraient été endoctrinés idéologiquement, mais parce qu'ils n'arrivent plus à trouver l'assiette mentale, l'équilibre pour vivre dans une société sans guerre. On a vu ce phénomène, par exemple, chez les soldats américains de retour aux États-Unis, qui étaient totalement déstabilisés, traumatisés, donc il faudra s'en occuper par des formes de thérapie appropriées. Enfin, il y a le troisième groupe, il faudra essayer de les séparer des deux autres, à savoir les djihadistes repentis. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont là, ils se rendent bien compte, notamment en relation avec l'État islamique, que la réalité est très loin de l'idéal éthéré qu'ils se faisaient du djihad et que la violence aveugle peut être vraiment destructeur. Ceux-là, ils viendront et ils seront vraisemblablement, ils chercheront en quelque sorte à se racheter dans la société. Il faut leur en donner la possibilité. Et surtout, il ne faut pas les mettre en prison avec les deux autres, parce que là, ils seront re-djihadisés. Et donc, le fait de mettre ensemble ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tombent sous le coup de la loi antiterroriste, si vous voulez, il faut faire très attention pour qu'on ne mette pas la charrue devant les bœufs. Je veux dire, il faut vraiment les séparer, et surtout user de la... du vécu de ces djihadistes repentis pour pouvoir dissuader les autres de s'engager dans cette voie tortueuse dont la fin est la mort pour les uns, pour soi-même ou pour l'autre.
Jean-Luc Potier, sur cette question, donc un dernier mot.
Deux points très, très brièvement. L'un qui va se relier à la question qui avait été posée à propos de la guerre d'Algérie et des relations franco-algériennes qui ne sont toujours pas pacifiées et un héritage à solder, incontestablement. Moi, je suis frappé en lisant les récits des vies de ces garçons qui ont agi en janvier dernier, de voir que les effets de l'affreuse guerre civile qu'a connue l'Algérie dans les années 90 ne sont pas complètement effacés. Et qu'il y a par des contre-coups de cette guerre civile qui avait un fondement islamiste, djihadiste très fort et que nous continuons à en vivre les contre-coups. Et d'autre part, toujours par rapport à votre question, au-delà des destinées individuelles, peut-être serait-il bon de s'interroger aussi sur le comportement de certains États que nous considérons comme tout ce qu'il y a de plus fréquentable. Je pense à la Turquie à l'heure actuelle. Si vous regardez les images du passage de l'ami de Koulibaly à l'aéroport d'Istanbul ou Ankara, je ne me souviens plus, c'est absolument stupéfiant. Voilà quelqu'un qui normalement est suivi par les services de renseignement, dont on doit connaître grosso modo quand même le numéro de passeport, et qui passe là, mais absolument comme une fleur, sans aucun problème. Et la Turquie aujourd'hui joue quand même un jeu un peu pervers. La peur de voir s'installer un État kurde à ses frontières fait qu'on laisse une porosité tout à fait dommageable s'installer entre la Turquie et la Syrie et que les allers-retours sont d'autant plus faciles qu'on ne fait pas attention, voire que quand on fait attention, on se trompe d'avion et on renvoie des gens qui devraient être arrêtés par le mauvais avion, si bien que quand ils arrivent, c'est eux-mêmes qui doivent aller se présenter à la gendarmerie. Donc, y a peut-être aussi une analyse en termes, non pas seulement d'État défaillant, mais d'État, tout ce qu'il y a de plus présent et non défaillant, et dont la politique devrait être sérieusement interrogée.
Ce qui est une autre forme de défaillance.
Notre forme.
Voilà, nous avons pris un peu plus de temps que d'habitude, mais je crois que le sujet le méritait, ainsi que la qualité de nos intervenants, que je veux vraiment beaucoup remercier.